Oui, surtout quand c'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor, du lundi au vendredi, avec l'association Can Armor et son action ô combien utile.
LEM, l'émission, sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine qui soulève pour vous bien des voiles du Finistère. Pour autant, il n'est pas question de bateau, pas aujourd'hui en tout cas. Les voiles, on les pose parfois sur des publics fragiles ou en difficulté. Et ces personnes, heureusement, il existe encore des structures qui s'y intéressent et qui en prennent soin. C'est le cas de Can Armor, le chant de la mer en breton. C'est poétique, mais ça ne dit pas grand-chose de l'activité d'une association née en 1968 et qui, pour résumer, accompagne des adultes en situation de handicap psychique, mental, cognitif et ou qui ont des troubles du neurodéveloppement. Mais on est loin d'avoir tout dit. Nos invités vont davantage nous présenter Can Armor, dont on reçoit le directeur général Sébastien Maillard et la directrice adjointe de plusieurs services rattachés à Can Armor, accompagnement à la vie sociale, accompagnement renforcé à domicile et accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Bonjour.
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 Alors Sébastien Maillard, est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait de cette association Can Armor ?
Vous avez déjà commencé à rappeler du coup la naissance de l'association Can Armor, qui veut dire le chant de la mer. Alors, la légende veut que le nom ait été trouvé par des familles, donc un soir de tempête, donc dans un bistrot du Port-Rue à Douarnenez. Donc je cite cette petite légende quand même.
Ah, c'est bien, c'est toujours agréable,
voilà.
Cette légende.
Hein, donc,
oui, parce qu'on se demande, c'est vrai que le nom, on pourrait croire que vous êtes une chorale, mais pas du tout.
Non, pas du tout. Mais tout ça pour dire effectivement que l'association, elle est née de la volonté de parents, en 1968, qui ne trouvant pas de solution à l'accompagnement de leurs enfants, ont décidé de se réunir, d'organiser, de constituer une association. Donc, et le premier établissement qui est né, porté par l'association, était un établissement destiné aux enfants. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Mais oui, c'est ça.
Voilà.
Il n'y a plus d'enfants quasiment. Enfin.
Non, les enfants ont grandi. Nous accompagnons des adultes. Aujourd'hui, pour faire simple, sur le territoire du sud Finistère, on va de Carhaix, Douarnenez, Pontcroix, Quimper, Rosporden, Carnevel. Je cite là quelques communes qui accueillent nos établissements. Il y a 13 communes qui accueillent nos établissements. Et des établissements qui se sont, depuis 1968, très diversifiés. Puisque l'objectif, c'est de répondre à des besoins de territoire. On est passé aujourd'hui de un établissement en 1968 à plus d'une vingtaine d'établissements et services cette année. Quoi.
Et combien de personnes bénéficiaires et combien de salariés aussi
Nous accompagnons au quotidien près de 1300 personnes. 1300 personnes qui sont accompagnées par, là aussi je vais citer des chiffres non pas à la louche mais des chiffres ronds, ça parle plus, environ 500 professionnels qui accompagnent ces personnes plus d'une vingtaine de services qui, on peut distinguer trois secteurs d'activité.
Oui.
Le secteur d'activité de l'hébergement et de l'accompagnement en établissement, médicalisé ou pas, selon effectivement les besoins et le degré d'autonomie des personnes en situation de handicap. Donc, premier secteur.
Des foyers de vie, par exemple.
Foyers de vie, exactement. Donc, ce qu'on appelle aussi des foyers de vie, des foyers d'accueil médicalisés aussi. On a aussi des accueils de jour. L'idée, c'est de proposer vraiment une diversité de réponses sur les différents territoires. Un premier secteur, quand je dis premier secteur, il n'y a pas de hiérarchie quand je les nomme. Un deuxième secteur qui est celui du travail adapté, travail protégé. L'association porte 5 ESAT.
Établissement de soins et d'aide par le travail, c'est ça, ESAT ?
C'est ça.
Oui. Il y a beaucoup de sigles dans ce domaine.
souvent, les gens ont encore en tête les CAT.
Oui, voilà, c'est donc, ça. On appelait ça les CAT.
On appelait ça les CAT. Mais la dénomination est importante parce qu'aujourd'hui, on y reviendra sans doute, il y a une recherche d'inclusion et une recherche d'insertion réinsertion sociale et professionnelle, pardon, qu'on retrouve du coup dans cette nouvelle dénomination.
Oui, les personnes qui travaillent sont des travailleurs ou travailleuses, pas tout à fait des salariés, enfin ils n'ont pas exactement
ils ont pas le statut de salarié. Ils ont un statut beaucoup plus protecteur, hein, donc on n'applique pas le droit commun du droit du travail, donc ils ont un statut beaucoup plus protecteur. Et aujourd'hui, sur nos ESAT, on privilégie une insertion aussi vers le milieu ordinaire. Alors ça ne veut pas dire qu'à chaque fois on réussit, bien évidemment, à aller vers le milieu ordinaire, mais on a beaucoup de partenariats avec des entreprises dites du milieu ordinaire, hein, donc qui accueillent et qui accompagnent un certain nombre donc, de travailleurs avec les professionnels de nos établissements.
Et sur quel secteur d'activité portent vos ESAT, Sébastien Maillard ?
Eh bien, ils sont nombreux. On retrouve assez classiquement sur les 5 ESAT, on va retrouver les espaces verts, ça c'est assez connu classique. Et reconnu et assez classique, ma foi. Donc voilà, mais de manière un peu plus originale, nous gérons une cidrerie à Tromelin, et nous sommes très très fiers, parce que...
Vous pouvez.
Voilà, nous sommes très fiers, parce que nous avons obtenu encore cette année quelques médailles, une médaille d'or à Fouesnant, une médaille d'or aussi au concours national de Paris.
C'est dans l'AOP, l'AOC Cornouailles, de toute façon.
Exactement, oui. Donc voilà, il y a une très grande fierté, et c'est très valorisant pour les professionnels, évidemment les travailleurs. De manière assez originale aussi, nous avons une menuiserie à Pont-Croix, avec des marchés nationaux. Alors je cite un marché parce qu'il parle à tout le monde. Lorsque vous prenez un avion d'Air France, les cales d'avion d'Air France, elles sont faites à Pont-Croix par les aides de Pont-Croix, de Camp d'Armor. Donc là aussi,
bravo.
C'est une petite fierté.
Mais oui.
Hein, et puis de manière aussi originale encore, nous avons à Quimper un ESAT qui fait des filets. Alors vous me direz...
Des filets de pêche.
En Bretagne, pas du tout.
D'accord.
voilà, tout sauf le filet de pêche, filet de sécurité, filet d'aérobranche. Et on évoquait ce matin aussi, notamment des filets là, que nous allons livrer en Ukraine.
C'est ce que j'allais vous demander, faites des filets anti-drones.
En tout cas, on participe là à une opération avec quelques autres partenaires. Et on va envoyer dans quelques jours des filets anti-drones en Ukraine.
J'imagine que ce n'était pas prémédité, mais voilà.
Ce n'était pas prémédité, effectivement.
Mais ça montre que les ESAT s'adaptent, enfin que des associations comme Camp d'Armor s'adaptent.
Oui, et puis ça participe de la volonté de revendiquer la citoyenneté aussi des personnes dites vulnérables. C'est-à-dire que on défend l'utilité sociale et on défend la citoyenneté des personnes que nous accompagnons. Et ça fait partie, du coup, ce type d'initiative, ça fait partie, effectivement, de cet effort de citoyenneté aussi. Hein, voilà.
Donc, pour reprendre le fil, on a les hébergements et soins, les ESAT et...
Et donc, troisième secteur d'activité, un secteur d'activité qui est sur le domicile, SAVS, SAMSA, et Céline en parlera plus longuement que moi tout à l'heure.
Alors, SAVS, c'est Service d'accompagnement à la vie sociale, c'est ça ?
Oui, excusez-moi, j'utilise beaucoup d'acronymes.
Alors, redites-moi.
SAMSA.
Accompagnement médico-social.
Allez, Céline.
Allez, les acronymes, c'est pas simple dans notre secteur, mais le SAMSA, c'est le Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés.
Oui, donc là on est sur du soin vraiment, alors que SAVS, on sera plus sur de l'aide aux démarches, c'est ça, non ?
Ce qui va faire la spécificité du SAMSA, c'est que les personnes qui bénéficient du service sont confrontées en plus du handicap mental et ou psychique,
oui.
Vont être aussi concernées par des problématiques de santé chroniques importantes et qui sont invalidantes. Et le SAMSA va avoir vocation à venir coordonner ce parcours de soins et tous les intervenants nécessaires autour de la personne pour effectivement qu'elle puisse avoir une santé satisfaisante et qu'il ne soit pas trop empêchante dans leur quotidien aussi.
Donc, et rester chez elle, quoi. Enfin, pas...
c'est, de toute façon, sur le SAVS et le SAMSA, c'est vraiment le sens même de nos services, c'est d'accompagner les personnes à partir du domicile. On est sur des personnes accompagnées qui ont, quand ils ont dans nos services, suffisamment d'autonomie pour pouvoir vivre seuls et selon leur choix de vie, parce que c'est aussi ça qu'on défend et qu'on accompagne, c'est ce choix de vivre à domicile. On va les accompagner effectivement dans tout l'environnement. C'est pour ça qu'on parle de milieu d'accompagnement, milieu ouvert sur les SAV SAMSA. C'est qu'on accompagne à partir du domicile, mais dans l'environnement de la personne au sens large, dans la cité.
Et on sait que c'est de plus en plus complexe. Donc,
on sait que ça peut être de plus en plus complexe selon effectivement certaines problématiques.
Et donc, qu'en Armor, enfin Sébastien Maillard, pour repréciser qu'en Armor, on est vraiment uniquement sur le handicap mental, psychique. Enfin, on n'est pas sur les personnes qui ont des handicaps physiques ou sensoriels.
C'est pas la porte d'entrée.
Voilà.
Donc voilà. Après, ça peut être associé, mais c'est pas la porte d'entrée effectivement. Donc voilà. Alors, on parle de handicap. On a un établissement pour personnes âgées, donc à Douarnenez, une résidence autonomique. Je voudrais pas oublier quand même. Donc voilà, parce que là aussi, nous sommes très fiers de cette résidence autonomique à Douarnenez. C'est le fait de l'histoire aussi sur le territoire de Douarnenez.
Donc résidence autonomie, ça veut dire que les personnes vivent en relative autonomie, c'est pas comme un EHPAD?
Non, c'est ce qu'on appelait les foyers logements. Donc voilà, comme vous dites, il y a une relative autonomie. Mmh. Donc voilà. Et puis pour terminer la photographie, on commençait par citer les 1300 personnes accompagnées. Ces 1300 personnes accompagnées, elles se retrouvent de manière assez proportionnelle dans les trois secteurs d'activité qu'on vient de citer.
Ah oui.
Un tiers à peu
d'accord.
près. Donc voilà. On a des personnes qui peuvent être accompagnées par différents services hein, quand même.
Ah oui,
donc,
j'imagine.
Mais voilà. Ouais. Mais voilà pour la photographie. Quoi.
D'accord. Et alors pour les évolutions, parce que par exemple, c'est vrai que maintenant on parle de plus en plus de handicap psychique, cognitif, mental. Je ne sais pas s'il y en a plus de fait dans la société, mais est-ce que vous avez noté des évolutions des demandes auxquelles vous êtes confrontés et lesquelles?
Les évolutions de demande, je fais le lien avec, du coup, la phrase qui est accolée à notre logo Canarmor, au plus près de la vie ordinaire. Et Céline le citait là tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une recherche, en tout cas, d'autonomie plus grande, une recherche d'intégration, d'inclusion. Voilà, ça c'est une demande très forte. Et les demandes, notamment aussi dans les hébergements que nous avons, elles sont différentes de celles que nous avions il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je pense que les personnes en situation de handicap et leurs familles pouvaient, entre guillemets, se satisfaire d'être prises en charge et d'être accompagnées, hein, en disant au moins là, j'ai... Voilà. Aujourd'hui, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que on se doit de proposer tout à fait autre chose, et on se doit de proposer de co-construire avec ces personnes un vrai projet de vie. Et je pense que là, il y a une vraie demande, une vraie nouveauté par rapport à ce qu'on pouvait connaître il y a quelques années.
Oui, ça fait combien de temps à peu près justement qu'on a introduit cette notion de projet de vie dans des associations comme la vôtre ?
Je ne saurais pas donner une date précise.
Il y a la loi de 2002 qui est vraiment fondatrice aussi.
De 2002
Oui, il y en a eu...
Avant 2005 alors.
Et 2005 qui viennent vraiment remettre aussi la personne accompagnée comme acteur de son parcours et de son projet, mais de son parcours de manière générale au sein des services et des établissements médico-sociaux.
Et vous, Céline Emery, pour revenir sur cette question des évolutions, j'imagine que en termes d'accompagnement à la vie sociale, enfin tout ce qui est, d'énormes transformations aussi ces dernières années sur la nature même de cet accompagnement. Je pense notamment au numérique, mais il y a peut-être d'autres.
Les évolutions majeures, c'est celles que citait Sébastien Maillard, c'est-à-dire que les SAVS et SAMSA, d'emblée, de par leur mission, s'inscrivent dans cet accompagnement à l'autonomie, à accompagner les personnes à accomplir pleinement aussi l'exercice de leur citoyenneté, à pouvoir... tenir leur choix de vie, quel qu'il soit, dans tous les domaines. De fait, il y a, ça c'est ancré dans l'ADN de nos services. Là, on voit bien aussi que depuis quelques années, ce souhait s'affirme, et puis surtout, elle est portée aussi par les professionnels qui les accompagnent, les personnes.
Et ça veut dire des professionnels un peu d'un profil différent, peut-être aussi.
Mais c'est un des enjeux de notre association, comme je pense nos collègues aussi, les autres associations. Hein, donc voilà, c'est d'accompagner les professionnels dans cette dans cette démarche-là et dans cette dynamique-là. Donc voilà, on travaille beaucoup maintenant depuis quelques années sur la thématique de l'autodétermination, du pouvoir d'agir des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on interroge la place des personnes en situation de handicap, non seulement dans la société, mais aussi dans notre association, dans nos établissements. Mais forcément, quand on interroge la place des personnes en situation de handicap, on interroge la place des professionnels, on interroge la place de l'institution, du collectif. Donc, forcément, ça bouscule, ça interroge les pratiques. Et c'est un des enjeux, effectivement, c'est l'accompagnement des professionnels, bien sûr.
Et ça veut dire que ces personnes qui sont accompagnées peuvent aussi intégrer le conseil d'administration, par exemple, de Camp d'Armor, ou au moins un comité d'usagers, comme ça se fait beaucoup.
C'est dans nos statuts. C'est dans nos statuts, mais ça ne. C'est une intention, en tout cas politique. Mais je ne dois pas cacher que c'est une difficulté aussi. C'est-à-dire que ça nous oblige aussi à. Adapter aussi notre discours. Une association comme la nôtre aujourd'hui, avec sa taille et son poids économique et social, fait qu'on a énormément professionnalisé aussi les débats et les échanges au sein d'un conseil d'administration. On parle de stratégie. On emploie des grands mots. Ouais. La semaine dernière, on avait un conseil d'administration sur les prévisions budgétaires. Comment on partage ces informations et comment derrière on partage un débat avec les personnes en situation de handicap. Il y a cette intention-là, on a le devoir de nous adapter. On a mis en place beaucoup d'outils aujourd'hui, de facile à lire, à comprendre. Hein, on a mis en place beaucoup de formations à destination des personnes accompagnées, des professionnels, des familles qui participent aux conseils de vie sociaux. Mais on a encore énormément de chemin à parcourir, ça c'est une évidence.
Oui, Céline.
Non. Et puis c'est aussi d'appuyer les personnes accompagnées dans ce cheminement, parce que je parle pour le SAVS SAMSA, parce qu'on accompagne aussi de manière spécifique des personnes avec des troubles psychiques. On accompagne des personnes aussi avec du handicap mental, mais quelles que soient les formes de handicap, on sait qu'il y a aussi cette forme de stigmatisation qui s'exprimait pendant très longtemps.
Qui s'atténue, on va dire.
Qui s'atténue, ouais. Mais
il y a encore
du chemin. Le concept d'inclusivité, effectivement, c'est une visée. On sait aussi que là, il y a encore beaucoup de travail. Donc à un moment donné, les personnes qu'on accompagne aussi sont héritières de ça. Et c'est nous aussi comment on donne les clés, comment on donne l'espace, comment on crée aussi un champ d'expérience pour qu'elles puissent le vivre, le travailler et développer tout ce qui est nécessaire aussi pour qu'elles se sentent en confiance.
Leur donner envie aussi de le faire.
Ce cheminement-là.
Oui. Sébastien Maillard, vous évoquiez le budget quand même, c'est une question que je dois vous poser, puisque toutes les associations comme la vôtre, enfin toutes les associations en général en ce moment, se posent des questions sur le budget. Comment ça se présente pour Camp d'Armor ?
On est tous observateurs actuellement des négociations budgétaires, notamment sur le projet de loi sur la sécurité sociale. Donc on est très concernés. Il y a des incertitudes et un manque de visibilité pour notre association comme pour les autres associations. On a évoqué, sans rentrer dans les détails techniques, mais notamment le Ségur pour tous, ce qui était la valorisation des professionnels du médico-social, plus largement de la santé, mais aussi du médico-social. Et aujourd'hui, ce sujet n'est toujours pas, il n'y a pas de garantie de la part du pouvoir public. Il y a des attentes, effectivement, très importantes de notre part. Pour autant, on a un département qui est proactif. Il y a un pacte qui s'appelle Pacte de Plébin qui, a porté un certain nombre de créations de places dans le secteur du handicap, en tout cas. Mais on sait que ça va être un effort collectif, c'est-à-dire que c'est l'État, c'est le conseil départemental, mais c'est aussi, et c'est ce que nous faisons depuis des années, aussi des efforts de gestion. Je parlais de professionnalisation tout à l'heure. Le mot association renvoie parfois, je dirais,
À des bénévoles.
À des bénévoles, et c'est le cas, et on revendique d'ailleurs. On revendique le fait associatif, et on revendique effectivement cette notion de bénévolat. Mais derrière, parfois, il y a quelque chose d'un peu de péjoratif. Voilà. Et nous, on revendique effectivement une gestion professionnelle, ce qui nous permet aussi de défendre les intérêts des personnes accompagnées et de leurs familles. C'est en ayant une gestion très professionnelle que nous pouvons revendiquer et que nous pouvons être légitimes pour défendre les intérêts, et c'est le cas pour notre association, c'est le cas pour les associations globalement donc de la région Bretagne et du Finistère avec lesquelles on travaille très étroitement.
Oui, vous ne servez pas de syndicat, mais un peu en fait, quelque part, pour les personnes en situation de handicap.
Non, sans parler de syndicat, on revendique être autre chose qu'un organisme gestionnaire. On revendique, et puis je le disais, l'ADN c'est quand même aussi des parents qui aujourd'hui, c'est le trois quarts du conseil d'administration, donc de l'association. Donc on revendique aussi défendre des intérêts et porter du coup la parole. Donc il y a forcément, sans être un syndicat, une posture militante.
Et alors, à propos de parole, Céline Emery, alors on a fait un peu le point sur les services dont vous avez la responsabilité, donc SAMSA, SAVS, SARD aussi, c'est la même chose, non?
Juste aussi pour préciser, je ne suis pas seule à porter cette responsabilité. Il y a une équipe de direction dont je fais partie. Il y a effectivement une directrice également, deux responsables de service qui sont répartis sur les différents services parce qu'effectivement, on va avoir un périmètre assez élargi sur l'ensemble du Finistère Sud et le centre Finistère également. Des services qui se déclinent pour répondre à des besoins spécifiques de public spécifique, même si on observe ces dernières années aussi que finalement les frontières sont un peu plus poreuses et que les besoins sont de fait pluriels et que parfois ils sont aussi très transversaux. Mais on accompagne sur le SAVS, par exemple, des personnes en situation de handicap mental qui peuvent notamment travailler en ESAT sur Cannes-Armor ou ailleurs.
Mais qui habitent chez elles, seules, ne sont pas envoyées.
Tout à fait. Et puis, sur le SAMSA, on va là aussi accompagner des personnes avec handicap psychique et puis des personnes avec des troubles du spectre autistique. Voilà, donc on a vraiment un public assez,
large.
Large. Et du coup, chaque service, effectivement, va pouvoir apporter une réponse plus particulière. Et avec aussi une quarantaine de professionnels issus de divers métiers. On a des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs, des assistants de services sociaux, des médecins, des infirmières sur le SAMSA, des ergos, une ergo.
Ergothérapeute. Orthophoniste, tout ça,
non.
Je suppose, non?
Non. Mais des conseillères en économie sociale et familiale, bref, une diversité de métiers et des psychologues qui sont aussi, très présents aussi sur les équipes et qui vont permettre d'accompagner de manière complémentaire, plurielle, sur tous les domaines de la vie des personnes.
Et aussi, vous nouez des partenariats avec d'autres associations et vous leur proposez aussi des... alors justement, là c'est dans la gamme de l'autonomisation, de l'expression, un partenariat avec notre radio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il va consister ce partenariat avec Transistor?
C'est un partenariat là, qui est porté plus particulièrement par le SARD, vous l'évoquiez, le service d'accompagnement renforcé à domicile, et qui est un des services du SAVS Émeraude, de notre SAVS, et qui accompagne des personnes avec des troubles psychiques. Alors, particulièrement invalidants sur un certain nombre de domaines, et qui rend... parfois difficile l'accès à une activité professionnelle, l'accès à une vie sociale, l'accès aux soins aussi parfois. Donc voilà. Et le SARD donc est un service qui émane de ce SAVS et qui va accompagner de manière plus spécifique des jeunes, puisque la moyenne d'âge est de 25 ans, 14 personnes accompagnées par le service. Alors nous, on parle d'adhérence, c'est un mot que j'ai utilisé, mais parce
très bien,
que
ouais.
C'est aussi une des conditions, entre guillemets, d'entrée dans les services, c'est que les personnes, quand elles font une demande vis-à-vis de nous, c'est qu'elles sont partie prenante de l'accompagnement, oui, et qu'elles adhèrent à la démarche d'accompagnement qu'on propose.
Oui, c'est pas juste leurs proches qui les ont collés là, entre guillemets.
Il y a toujours cette exigence, effectivement, à travailler avec elles et à vérifier avec elles qu'elles comprennent ce pourquoi on est auprès d'elle et ce sur quoi on va travailler avec elle. Parce que Sébastien parlait de co-construction, c'est vraiment au cœur et aussi une condition que l'on se donne, une exigence dans l'accompagnement au quotidien.
Et la, ouais, et la radio, donc, ouais, il nous reste juste une minute pour préciser l'intérêt.
La radio,
ouais,
c'est dans cet accompagnement-là, à l'autonomisation, mais on parlait d'autodétermination aussi, à permettre aux personnes à faire des expériences, à travailler aussi des habiletés sociales, à partager aussi des temps collectifs et puis à s'ouvrir aussi sur l'extérieur. C'est aussi une des dimensions très fortes sur le SARD, c'est aussi ce travail en collectif autour des habiletés, autour des compétences du quotidien, qui est soutien aussi de pair aidance, d'entraide entre personnes accompagnées. Le projet du SARD, il vient finalement donner un espace extrêmement intéressant pour pouvoir travailler ça avec la radio, c'est-à-dire que on va travailler à l'élaboration d'émissions avec les adhérents du SARD, qui vont être vraiment à l'élaboration à chaque étape. Ces émissions, elles ont vocation à parler effectivement du vécu et de l'expérience du handicap, mais aussi de parler de manière plus générale d'un certain nombre de thématiques telles que l'autonomie, le savoir habiter, et d'aller à la rencontre encore de l'environnement au travers de la valorisation de ce qui se fait sur les territoires. Donc un très joli projet.
Qu'on suivra bien sûr et qu'on pourra écouter quand ça sera fait sur notre site internet.
Ça pourra s'engager en janvier 2026, c'est ce qu'on a commencé à projeter.
On suivra ça et en attendant cette émission-là, on pourra aussi la réécouter sur notre site. Merci à tous les deux d'être venus
merci,
nous parler
merci
de Caen Armor.
Merci.
Et dans l'Aime de vendredi, il y aura un plateau radio spécial d'une heure dans le cadre de notre tournée des tiers-lieux du Finistère. On ira à Crozon chez La Belle Pique.